Fille du vent, fille de radio, chronique radio,
Ouais.
chronique pakistanaise, Animili.
Voilà. Et en fait, cette semaine, c'est le tout dernier billet sur la diaspora du Pakistan. Et donc, aujourd'hui, je me suis intéressée aux Pakistanais qui immigrent vers le Moyen-Orient. Donc, je ne sais pas si vous le saviez, mais l'Arabie Saoudite a donné 1,5 milliard de dollars au Pakistan cette année lors de un prêt qu'il déclare inconditionnel, un cadeau amical selon les autorités saoudiennes.
Et ils ont donné 1,5 milliard comme ça.
Voilà. Ceci dit, quand on va un peu plus loin, on voit qu'en échange, le Pakistan fournirait des armes aux pays du Golfe, des armes qui pourraient servir à soutenir un parti plutôt que l'autre dans ce qui se passe en Syrie. Donc on peut dire en tout cas que les relations entre le Pakistan et l'Arabie saoudite sont au beau fixe. Pourtant, 50 000 Pakistanais qui travaillent sur le territoire pétrolier sont soudainement devenus illégaux il y a un peu plus de 2 mois. Une nouvelle loi stipule en effet que les étrangers dans le pays du Golfe doivent travailler au poste inscrit sur leur visa. Sinon, ils sont en situation illégale. Avec cette nouvelle loi, les Saoudiens veulent favoriser l'emploi de leurs citoyens, car le chômage a atteint 12%, sans compter les citoyens qui ne cherchent pas d'emploi. Cette loi touche tous les travailleurs étrangers, soit un tiers des 27 millions d'habitants. Ces 9 millions d'étrangers n'incluent pas les illégaux en plus. Et parmi les pays du Golfe, l'Arabie saoudite emploie le plus d'étrangers. Et les Pakistanais pourraient donc bientôt se faire déporter, tout comme des travailleurs du Yémen, d'Égypte, du Liban, d'Éthiopie, d'Inde, du Sri Lanka, du Bangladesh, d'Indonésie ou encore des Philippines.
Et ils les emploient parce que c'est de la main-d'œuvre moins chère que les Saoudiens, j'imagine,
Exactement,
que les travailleurs saoudiens.
Et surtout, c'est en général des besognes, on va dire des basses besognes, que donc les Saoudiens ne
Pourrait
voudraient
pas
peut-être
faire.
pas faire. Donc en tout, la diaspora pakistanaise a déjà transféré au Pakistan 12 milliards de dollars cette année, dont 4 qui viennent d'Arabie Saoudite, où se trouve la plus grande diaspora de Pakistanais au monde, avec 1,5 million de ressortissants selon les chiffres officiels. L'Inde a aussi 1,5 million et le Bangladesh en a 2,5 millions. Bref, deux tiers des étrangers qui travaillent en Arabie Saoudite viennent du sous-continent indien. Pourquoi y vont-ils? Pour envoyer de l'argent à leur famille. Par exemple, j'ai une amie reste au pays qui n'a pas vu son père depuis 20 ans. Elle a vécu en Arabie Saoudite jusqu'à ses 6 ans, puis son père a rapatrié sa femme et ses 5 enfants au pays et envoie de l'argent sur leur compte en banque depuis lors. En 2011 seulement, 220 000 Pakistanais auraient migré pour travail dans ce pays du Golfe. Ça ne veut pas dire qu'ils y sont forcément bien accueillis. Pour illustrer leur réalité, voici une lettre ouverte publiée sur le site d'un journal pakistanais anglophone intitulé Dawn, et elle est écrite par un Pakistanais qui a vécu de nombreuses années en Arabie Saoudite. Voilà, je me permets de vous la lire. La vie est belle en Arabie Saoudite. Elle est même luxueuse car on ne se refuse rien. La richesse pétrolière, les revenus non taxés, de multiples domestiques, des grandes villas et une sécurité indéniable. Même si les ouvriers pakistanais eux-mêmes remarquent les meilleurs standards de vie de l'Arabie saoudite par rapport au Pakistan, pour eux, le pays du Golfe est une opportunité de soutenir financièrement leur famille en toute sécurité. Cependant, en Arabie saoudite, il y a un conflit entre l'intégrité éthique et le gain personnel. On peut remarquer une sorte de racisme pervasif, une forme de suprématie saoudienne selon laquelle les autres Arabes, mais surtout les expatriés sud-asiatiques et d'autant plus les ouvriers, sont des matières premières qui peuvent être vendues et achetées à merci. Les expatriés ne sont donc pas des humains et peuvent être troqués et acquis. Lié à cette suprématie raciale, il y a l'effort de protéger le régime de la critique sous des faux prétextes religieux. Les livres scolaires saoudiens sont remplis d'incitations à la haine. Les cours d'études islamiques sont simplement barbares. J'en ai personnellement fait l'expérience comme élève dans une des écoles les privées les plus prestigieuses de la capitale. Un professeur d'études islamiques nous enseignait les dangers d'avoir des amis non musulmans. Il nous apprenait que les chrétiens, les juifs et les chiites manigançaient des conspirations diaboliques. Au Pakistan, les pétrodollars saoudiens ont fondé des usines de la haine, prenant la forme des madrassas. Le pétro-islam est un scénario cauchemardesque où fusionnent le capitalisme et une idéologie dangereuse. Les plus modérés de toute société se font submerger par de faramineuses sommes d'argent. Au Pakistan, on prête peu d'attention au traitement de ces ouvriers pakistanais. Si les Saoudiens ne parlent pas des souffrances de ces personnes, pourquoi devrions-nous, Pakistanais, garder le silence? Je comprends que les Pakistanais en Arabie Saoudite ne peuvent protester. Mais pourquoi ceux qui vivent hors du pays et qui ont vu de leurs propres yeux le traitement sévère de leurs compatriotes devraient-ils se taire également? Les pays du Golfe exercent un équivalent moderne de l'esclavagisme et nos médias devraient en parler plutôt que de créer des histoires sur le Mossad ou sur les services secrets indiens. Le traitement des ouvriers pakistanais comme sous-humains est profondément envahissant. La logique sous-jacente à ce traitement est qu'un non-saoudien ne peut jamais être un égal. Leur seule fonction est de servir. Les Pakistanais aiment critiquer l'hostilité de l'Europe envers les immigrants, mais le sentiment anti-immigration qui règne en Arabie Saoudite est profondément toxique. Et pourtant, personne n'y prête jamais attention. Les Pakistanais invoquent toujours le même argument pour défendre l'Arabie Saoudite. C'est un pays musulman et donc un bon endroit pour éduquer ses enfants. Voilà ce qu'ils disent, mais il y a peu de choses musulmanes dans le pays. Quand je vivais en Arabie Saoudite, j'ai parlé à des convertis à l'islam qui avaient voyagé depuis les États-Unis ou depuis le Royaume-Uni pour se rendre dans le royaume islamique d'Arabie Saoudite. En privé, ils m'ont révélé avoir été profondément déçus et désillusionnés par leur découverte. Beaucoup étaient choqués par ce qu'ils avaient vu en Arabie Saoudite. Ils mentionnaient l'énorme hypocrisie régnant dans la société. Pendant que les élites profitent d'un train de vie hédoniste mêlant alcool et boîtes de nuit, la police religieuse rend la vie infernale. J'ai déjà vu un mollah faire demi-tour sur une artère centrale de la capitale juste pour dire à une femme de porter correctement sa burqa. J'ai le sentiment que nous, Pakistanais, ne savons pas que penser de l'Arabie Saoudite. Après tout, malgré tous leurs défauts, les Saoudiens ont leur mérite. Beaucoup de Pakistanais et de musulmans partout dans le monde se sentent redevables pour le pèlerinage à la Mecque. En effet, les Saoudiens ont continuellement réalisé un travail fantastique pour améliorer les installations, les mouvements de foule et devraient être remerciés pour gérer de tels événements si efficacement. Mais en ce qui concerne la foi, certains Pakistanais sont naïfs et pensent qu'un pays musulman est incapable d'être injuste envers un autre pays musulman. Ils refusent d'accepter que dans la politique réelle, les musulmans ne forment pas une seule grande nation. Parler de l'Arabie Saoudite nous met mal à l'aise moralement. D'un côté, nous recevons d'abondants versements d'ouvriers pakistanais qui sont employés dans le royaume. Mais d'un autre côté, tout le monde sait que nous sommes discriminés et que nous avons peu, voire pas du tout de droits. La réponse qui revient toujours est que ces Pakistanais qui vivent et travaillent en Arabie Saoudite devraient être reconnaissants d'avoir un emploi alors que les situations économiques et les conditions qui se détériorent chaque jour un peu plus au Pakistan étouffent la population. Dans ce monde froid et utilitariste où seul l'argent compte, il est impossible de concevoir que le gouvernement pakistanais se batte pour les droits de ses citoyens face à la famille royale saoudienne. L'expression « ne pas mordre la main qui vous nourrit » vient alors en tête. Le Pakistan est coincé dans un mariage abusif quand il s'agit de l'Arabie Saoudite. Voilà la fin de cette petite lettre ouverte.
Et donc, il n'y a pas d'association au Pakistan qui font cas de ce qui se passe pour les migrants pakistanais en Arabie Saoudite, non ?
Moi, j'en connais pas. Il y a beaucoup d'ONG, beaucoup, beaucoup. Mais en général, déjà, elles ont... un soutien étranger, principalement de l'Occident. Et non, en fait, pourquoi dès lors que les gens qui travaillent là-bas rapportent de l'argent à leur famille et donc contribuent de manière vraiment énorme à l'économie du pays, pourquoi est-ce que les gens iraient après dire... Ben, moi, je trouve que bien que tel membre de ma famille me rapporte une somme colossale tous les mois, je trouve que ce n'est pas correct comment il est traité là-bas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'arnaques à l'emploi. Il y a beaucoup de... donc, déjà, peu de contrats. Aucune sécurité donc à l'emploi. Et des paiements qui, parfois, sont jamais faits. Bon, ça arrive aussi au Pakistan, bien sûr, hein. Mais les gens sont déjà là-bas et sont là-bas juste pour ça. Donc, quand ça n'arrive pas, évidemment, ils ne peuvent pas spécialement se retourner vers un membre de leur famille ou quoi au caisse, même si, effectivement, l'entraide là-bas entre Pakistanais est énorme. Donc, c'est vraiment ça le problème. Les gens, en plus, pensent qu'ils vont pouvoir exporter leurs compétences parce que c'est aussi ça dont manque principalement l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire des gens diplômés d'université. Par exemple, il y a pas mal de gens qui rentrent au Pakistan pour l'éducation, parce qu'ils trouvent que l'éducation là-bas est vraiment juste pas bonne, quoi. Et donc, ils rentrent pour l'éducation, pour éduquer leurs enfants, et pas seulement parce que c'est moins cher. Donc il y a pas mal de problèmes à tous les niveaux. Et c'est vrai que quand on pense que, allez, il y a quoi? Il y a 5 à 6 millions d'étrangers qui viennent du sous-continent indien, sur 26 millions, c'est énorme. Or, on ne les entend jamais s'exprimer.
Et c'est le cas dans d'autres pays du Moyen-Orient ou c'est particulièrement le cas en Arabie Saoudite?
C'est le cas dans d'autres pays. Dubaï, je pense beaucoup à Dubaï, quoique c'est un peu en train de retomber. Le Qatar, mais en moindre mesure. C'est vraiment beaucoup en Arabie Saoudite. Et les gens, bien qu'ils savent que ça se passe comme ça, veulent continuer à y aller. Et donc, voilà, on voit des chiffres qui sont impressionnants. 200 000 par an, rien que légalement. Donc, c'est incroyable. Alors qu'ils savent que bon, c'est pas génial là-bas. Mais alors, effectivement, quand ils vont en pèlerinage, c'est quelque chose qui, pour eux, est... Bon, c'est quelque chose qui, déjà, est obligatoire. Pour les gens qui sont vraiment très, très croyants, c'est obligatoire d'y aller au moins une fois. Et puis, effectivement, c'est une vie de luxe. Une fois qu'on est là-bas, c'est assez impressionnant de voir tous ces bâtiments, tout ce développement qui n'est pas visible au Pakistan. Et donc, ça impressionne aussi les gens, je pense. Il y a beaucoup de gens qui reviennent très impressionnés. Et du coup, quand on est impressionné, on a peut-être un peu de mal à critiquer ou bien à... C'est la première impression qui fait tout. Et effectivement, c'est dans la Mecque, etc., c'est quelque chose qui est très gardé, qui est très, comment dire, très protégé. Et donc, où on voit peu ce système, je ne vais pas dire, lui, il parle carrément d'esclavage, mais on voit peu cette exploitation, je dirais, parce que c'est quelque chose, c'est un endroit religieux, c'est un endroit pieux, et donc où les gens viennent pour prier et pour se recueillir.
Oui, ce n'est pas dans ce cadre-là qui découvre la face cachée de l'Arabie Saoudite.
Mm-hmm.
Autre chose?
Pas que je pense. Je pense qu'en fait, c'est assez complet.
Oui, mais je me demandais si tu poursuivais ou pas la connaissance.
Non, mais en fait, non, c'est fini. Mais il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer, même en cherchant un emploi. Par exemple, on leur dit, tu dois payer une somme d'argent et avec un passeur, ou même déjà quand ils sont dans le pays, avec un passeur, avec tel ami à moi... Je te donne un boulot, quoi, même comme agent de sécurité. En général, c'est ça, hein, c'est agent de sécurité ou bien dans la construction ou bien des chauffeurs, etc. Et donc, et les gens se font arnaquer des sommes folles, enfin, se font juste arnaquer dans l'espoir d'avoir un boulot et parfois empruntent. Donc, il y a des gens qui se disent, enfin, moi j'en ai connu pendant même le laps de temps où j'étais là, où j'étais au Pakistan, qui sont partis. Qui s'était donné 2 mois parce que le père d'un d'entre eux travaillait déjà là-bas, donc il pouvait s'installer et essayer de trouver même un boulot, alors que c'était des gens qui avaient des diplômes universitaires, etc., et qui essayaient de trouver un boulot même en tant qu'ouvrier et qui n'ont pas réussi et qui sont revenus criblés de dettes, avec plusieurs amitiés aussi détruites. Parce qu'ils avaient fait confiance à des gens auxquels ils pensaient pouvoir faire confiance et donc avaient emprunté à des amis à eux. Et puis après, bon, bah, ça tombe à l'eau et là, voilà. Et donc, ils reviennent au pays et là, c'est la grande question, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce que bon, c'est quand même un investissement lourd. Puis il faut obtenir le visa, c'est pas chose facile. Donc, il faut déjà se faire sponsoriser. Pour ça, il faut déjà avoir fait une visite dans le pays ou avoir un membre de la famille. Donc, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Tout ça pour après avoir, oui, de bons revenus financiers, mais à quel prix ? Je veux dire, leur vie là-bas n'est pas... Enfin, est loin de celle que vivent leurs patrons. Voilà, c'est tout.
D'accord.
Je pensais juste à ce petit détail parce que je pensais à cette personne qui avait fait ça et qui était revenue vraiment criblée de dettes, quoi.
Eh bien, merci Anne-Émilie pour le complément et la chronique et cette lecture d'être ouverte assez, assez poignante.
De rien.
Au revoir.
Oui, c'est fini.
Au revoir, Richie.
Vous avez noté? C'est bon, vous pouvez fermer votre agenda. Bonne écoute sur le 105.4 FM Radio Panique.